Ce que je voudrais essayer de faire, c'est de présenter un petit peu à la fois la façon dont on utilise l'ADN comme explication du monde vivant et les confusions et les extrapolations hasardeuses auxquelles ça donne lieu. Donc de façon relativement descriptive et sans aller aussi loin dans les concepts que nous venons de le faire dans les dernières minutes. Donc, le vivant est-il programmé par le génome? Gros point d'interrogation, bien sûr. Un petit peu d'histoire. C'est une idée qui date de bien avant qu'on parle de génome. C'est une image que j'ai extraite d'un bouquin de Lombroso, donc fin du 19e. Travail fait avec des méthodes très scientifiques à l'époque, puisque c'est une photographie composite où il avait superposé des photographies de crânes de criminels de façon à obtenir l'aspect typique du criminel né. Et comme il le dit, donc cette photographie composite montre les caractères du criminel né et même, on peut le dire, de l'homme sauvage, puisque bien sûr, l'homme sauvage, l'indigène, est un criminel né. Bon, ça peut paraître très loin. On tombe, par exemple, sur Internet, sur des choses qui finalement ressemblent assez. Donc ça, c'est tout récent. Ça plaira aux neurobiologistes d'assistance. Donc, vous avez ici l'image d'un cerveau normal et l'image d'un cerveau de meurtrier, avec bien sûr sous-jacent l'idée que tous les normaux ont des cerveaux comme ça, tous les meurtriers ont des cerveaux comme ça, tous ceux qui ont des cerveaux comme ça sont des meurtriers, et le meurtre a une cause totalement organique. Alors, bien entendu, depuis 1886, la date, si je me souviens bien, de la première illustration, on a appris beaucoup de choses sur l'ADN et sur l'hérédité, et comme tout le monde le sait, on a récemment séquencé, lu la suite des bases de notre ADN, la suite des 3000 lettres qui sont inscrites dans notre ADN, avec toute une série d'étapes, une étape de cartographie que je rappelle ici simplement pour quand même indiquer l'immensité de la tâche que ça a été représentée. Lorsqu'on part, on passe d'un chromosome figuré ici à la séquence, la suite des lettres de l'ADN représentée ici, ça correspond à un changement d'échelle d'à peu près 1 million entre l'échelle qui est ici, l'échelle qui est là. Un chromosome moyen comporte à peu près 100 millions de lettres qui sont lues par petits morceaux de 200, 300, 400 lettres à la fois qu'il faut ensuite collationner, assembler, comparer, etc. Bon, tout un travail très important qui n'est pas complètement terminé mais qui est quand même pour l'essentiel réalisé pour l'homme comme pour pas mal d'autres organismes. Et qui nous a effectivement appris beaucoup de choses, que je vais résumer très très rapidement, en prenant trois aspects. Bon, d'abord, l'unité beaucoup plus profonde et beaucoup plus étroite qu'on ne l'imaginait jusque-là du monde vivant. Bon, je l'illustre par un tableau un peu idyllique qui provient d'un prospectus du programme génome japonais, mais j'aime bien parce qu'on voit le fil d'ADN qui traverse toutes les espèces. Et effectivement, on savait déjà que toutes les espèces vivantes sur la Terre sont organisées de la même manière et utilisent le même mécanisme pour le stockage de l'information génétique. Mais la parenté entre les espèces s'est révélée beaucoup plus étroite qu'on ne l'imaginait. Ça a amené à réviser un certain nombre de notions de phylogénie. Et ça aboutit, par exemple, à ce qu'aujourd'hui, on puisse mettre un gène humain dans une mouche, et dans la plupart des cas, ce gène fonctionne et permet d'observer toute une série de détails sur son fonctionnement. Donc, une unité du monde profond, beaucoup plus intime qu'on ne l'imaginait jusque-là. Ça, c'est une des conséquences importantes. Bien sûr, et c'est en fait tout un champ qui s'est développé en même temps que se développait celui de l'étude du génome, l'élucidation d'un grand nombre de maladies héréditaires, la découverte des gènes qui, lorsqu'ils sont défectueux, sont responsables de plusieurs milliers de maladies héréditaires. Je reviendrai bien sûr là-dessus, mais c'est un des grands acquis des 10 ou 15 dernières années. Et je dirais troisième élément qui est plus récent, c'est finalement la très faible diversité, l'étonnante homogénéité de l'espèce humaine, puisque on On sait maintenant qu'il y a à peu près une divergence de 1 pour 1000 entre l'ADN de deux êtres humains pris au hasard, une différence toutes les 1000 lettres à peu près. Cette divergence est très faible si on la compare, par exemple, à ce qu'on constate entre des chimpanzés, entre des groupes de chimpanzés ou entre des groupes de gorilles, chez lesquels on a une divergence qui est 4, 5, 6 fois plus importante, bien que ces populations soient d'effectifs beaucoup plus faibles. Je rappelle que la divergence entre l'homme et le chimpanzé est assez faible, sans doute un peu moins faible qu'on ne le pensait il y a un an. C'est plutôt de l'ordre de 2 ou 3% que de 1,5%. Mais enfin, c'est quand même une divergence relativement faible. Mais je dirais le résultat le plus important et le plus nouveau, c'est celui-ci. Et ça donne en fait des indications convergence avec d'autres méthodes pour dire que finalement, les 6 ou 7 milliards d'hommes qui peuplent la Terre aujourd'hui proviennent d'une population de quelques dizaines de milliers d'individus il y a environ 100 000 ans. Donc c'est une population très restreinte qui a donné naissance à l'ensemble de la population actuelle. Et cette population très restreinte, donc l'homme moderne qui est apparu il y a à peu près 100 000 ou 200 000 ans, s'est multipliée très rapidement, ce qui fait que la divergence au sein de cette population est restée extrêmement faible, malgré les différences apparentes qui sont souvent plus culturelles que biologiques. Bon, voilà les trois éléments qui me paraissent les plus importants que je voulais rappeler. Je viens maintenant à parler un petit peu des interprétations ou des déformations qui se plaquent là-dessus et dont une des plus courantes est de toujours parler de l'ADN humain comme le blueprint. Le blueprint, c'est le dessin industriel qui s'appelle blueprint parce que dans le temps c'était reproduit sur des espèces d'énormes photocopieuses qui imprimaient en bleu. C'est le plan coté, c'est le descriptif détaillé d'une machine ou d'une pièce ou d'un appareil qui précise l'ensemble des formes, des dimensions de cet appareil. Et c'est le terme qui est très couramment employé, en particulier en anglais, pour désigner le génome humain, comme si ce génome décrivait intégralement l'être humain. Et bien sûr, on rejoint des images assez anciennes qu'on a mentionnées au cours de ces deux jours. L'idée de la préformation, ça c'est un dessin qui doit dater, je crois, du 17e et qui représente un spermatozoïde humain dans lequel, vous voyez, un petit homoncule est caché, il n'attend que d'être déposé dans un ovule chez une femme pour se développer. Bon, ce qui pose d'ailleurs un problème logique redoutable puisque cet homoncule doit lui-même contenir des milliers d'homoncules qui eux-mêmes doivent contenir des milliers d'homoncules et ainsi de suite. Mais finalement, quand on dit l'ADN, blueprint de l'homme, cette idée n'est pas tellement différente. Une autre expression que l'on entend très souvent, c'est « on a déchiffré le génome humain » ou « on a décrypté le génome humain ». Et c'est une expression courante, mais fausse, dans la mesure où ce que l'on a fait, c'est que l'on a lu le génome humain, c'est que l'on connaît à quelques approximations près la suite des lettres. On ne l'a pas, sauf dans quelques cas et dans quelques régions bien particulières, déchiffré ou décrypté, ce qui supposerait que l'on ait compris l'ensemble des significations contenues dans cette suite de lettres. Et je vais vous montrer un ou deux exemples pour justement voir à quel point on a lu, mais on n'a pas décrypté. Un exemple assez évident, c'est celui du nombre de gènes. Vous vous souvenez sans doute qu'il y a 3 ou 4 ans, on disait couramment que le génome humain contient 100 000 gènes. Alors, attention, là je parle de gènes dans le sens le plus simple possible, le gène du biologiste moléculaire, une définition relativement vague, mais quand même relativement opérationnelle, une région d'ADN qui contient l'information pour faire une protéine ou plusieurs protéines, mais fortement apparentées par les phénomènes d'épissage alternatif. Donc c'est en ce sens-là, je ne rentre pas dans les discussions très intéressantes qu'on a eues hier. Jusqu'il y a 2 ans, on pensait en général que le génome humain contenait à peu près 100 000 gènes, ce qui était relativement raisonnable, puisqu'on savait que le nématode en avait 15 000, qu'une bactérie en avait 3 ou 4 000, ça paraissait relativement raisonnable. Et vous avez ici, par exemple, une publicité d'une entreprise qui s'appelle Insight et qui est essentiellement une entreprise qui vend de l'information génétique qu'elle acquiert dans ses propres laboratoires et qu'elle vend très cher à des entreprises pharmaceutiques. Cette publicité donc fait référence à 120 000 gènes. Ils disent avoir dans leur frigo et dans leur base de données 120 000 gènes, dont 60 000 exclusifs, 60 000 qui sont disponibles seulement chez eux, dont ils sont les seuls à avoir la formule. Comme vous le savez sans doute, quand le premier état de la séquence du génome humain est paru en 2000, certains ont révisé cette estimation à la baisse et on a annoncé environ 30 000 gènes humains. Il y a eu en particulier deux équipes, une française, une américaine, qui ont toutes les deux annoncé environ 30 000 gènes. Ça paraît assez... la question n'est pas complètement close parce que cette estimation de 30 000 gènes est elle-même discutée. Par exemple, il y a eu deux estimations qui ont paru qui s'accordaient sur le nombre de gènes, donc ce qui paraissait rassurant. Mais ensuite, quand on a comparé un à un les 30 000 gènes prédits d'après la séquence par l'un et les 30 000 gènes prédits d'après la séquence par l'autre, enfin d'après la séquence et d'autres informations, on s'est aperçu que ça ne se recouvrait pas du tout complètement et que donc si on additionnait les deux, on se retrouvait avec plutôt 45 ou 50 000 gènes. Bref, la chose n'est pas complètement tranchée au point qu'il y a même un pari en cours sur le nombre de gènes humains. C'est un pari qui a été lancé lors d'un congrès à Cold Spring Harbor, qui est un peu le congrès annuel des séquenceurs et des génomistes. Vous avez donc des paris, le nombre de paris est relativement faible parce qu'il faut être présent à Cold Spring Harbor pour s'enregistrer. Le tarif du pari varie, c'est 1 dollar en 2000, 5 dollars en 2001, 20 dollars en 2002. Bien sûr, puisque plus on avance, plus on devrait avoir une idée précise du nombre de gènes. Et vous voyez que le nombre de gènes qu'indiquent les parieurs varie de 27 000 à 300 000. Donc, j'insiste sur ce point-là parce que ça montre que, bien que l'on connaisse encore une fois la suite des lettres dans le génome, bien qu'on sache en principe ce qu'est un gène, comment il commence, comment il finit, comment il se présente, eh bien, même dans ce sens relativement restreint, on n'arrive pas, pour toutes sortes de raisons techniques qui seraient trop longues d'expliquer, on n'arrive pas à prédire, à en déduire de façon univoque et sur le nombre de gènes qui existent, ce qui montre bien qu'on a lu le génome humain, mais on ne l'a pas déchiffré. Alors, deuxième bémol, bien sûr, c'est à propos des maladies génétiques. J'en ai parlé tout à l'heure, comme si ces maladies, en sous-entendant que ces maladies, finalement, se présentent toutes comme des maladies mendéliennes simples, c'est-à-dire des maladies qui sont causées par un défaut, souvent toujours le même, dans un gène toujours le même. Et en fait, ces maladies qui sont bien sûr les premières à avoir été élucidées parce que ce sont les plus faciles à étudier, sont plus l'exception que la règle. Alors, un exemple qui intéressera les psychiatres, c'est l'histoire de la recherche sur la psychose maniaco-dépressive. C'est une maladie mentale relativement bien caractérisée, parmi les mieux caractérisées, sur laquelle se sont ruées un certain nombre d'équipes à partir du moment où l'étude des maladies génétiques par les voies de ce qu'on appelait la génétique inverse a commencé à bien marcher. Et vous avez ici une revue qui est parue dans Nature Genetics il y a quelques années, qui résume le travail sur la génétique de cette maladie et qui s'appelle, donc la revue s'appelle Une histoire maniaco-dépressive, parce qu'effectivement, elle montre à quel point les résultats qui ont été obtenus à travers des dizaines et des dizaines de publications ont été contradictoires. On a d'abord supposé un gène en X sur le bras long du chromosome X, sur le chromosome 11, sur le chromosome 5, sur le chromosome X, mais autre part, sur le chromosome 12, et ainsi de suite. Un ensemble de résultats contradictoires liés à des problèmes techniques, liés à des problèmes d'interprétation statistique, liés au fait que l'influence génétique dans cette maladie n'est peut-être pas aussi forte que certains avaient pu le penser, et liée au fait que cette influence génétique, si elle existe réellement, se manifeste à travers des variations dans plusieurs gènes, et ce ne sont pas forcément les mêmes qui interviennent dans une famille et dans une autre. Et c'est en fait, on peut dire, le cas général des maladies dans lesquelles il y a une composante génétique. L'influence génétique est en général partielle et non pas totale, déterministe, absolue. Elle fait intervenir plusieurs gènes et elle se traduit plus par une vulnérabilité, par un risque augmenté, que par le fait d'être fatalement atteint de la maladie si l'on porte une certaine mutation dans un certain gène. Ces cas existent, mais ils sont relativement rares. Alors, donc, finalement, qu'est-ce que l'on essaye de faire actuellement ? Et on se rend compte que c'est encore extrêmement vaste et le champ à explorer est encore extrêmement vaste. C'est ce qu'on appelle la génomique, c'est-à-dire essayer de s'appuyer sur cette connaissance des génomes qui est très précieuse, qui est très importante, mais qui ne suffit pas à tout expliquer, pour commencer à comprendre le fonctionnement du vivant. Et donc, du fait que l'on dispose de ces séquences et d'un ensemble de moyens techniques, on essaye de travailler de façon très systématique sur un grand nombre de gènes à la fois et pas sur un gène puis un autre, à grande échelle. On met en œuvre des moyens informatiques importants, on met en œuvre une instrumentation et une technologie plus importante que ce qui était classiquement le cas en biologie. Donc, rapidement, un ou deux exemples sans rentrer dans le détail. On a par exemple les fameuses puces à ADN. Vous avez ici une image d'une puce à ADN où chaque petit point correspond à un gène et sa couleur et l'intensité de la couleur correspond au résultat de la mesure de l'intensité à laquelle fonctionne ce gène dans l'échantillon que l'on a appliqué sur cette puce. Donc, c'est une technologie qui permet de mesurer à quel niveau fonctionnent 5000 gènes, 10000 gènes dans une cellule, une tumeur, un organisme à un instant donné. Et cette information qui est massive peut ensuite être travaillée de façon extrêmement sophistiquée en confrontant des informations sur différents types de gènes pour en tirer, dans ce cas-ci, des prédictions cliniques sur l'agressivité d'une tumeur du sein. Donc, une analyse très massive de la façon dont fonctionne un grand nombre de gènes. On commence à savoir faire le même type d'analyse, non pas sur les gènes, mais sur leurs produits, les protéines, et on a autant besoin d'avoir des informations à ce niveau-là qu'au niveau des gènes, par des méthodes encore relativement classiques, ce qu'on appelle les gels à deux dimensions, qui permettent de visualiser simultanément la présence de quelques milliers de protéines et la façon dont ça varie entre, par exemple, un tissu normal et un tissu cancéreux. Bon, il y a des méthodes maintenant plus modernes, que je ne vais pas décrire, bien sûr, mais qui sont plus lourdement instrumentalisées et plus quantitatives. Et ça, c'est une diapositive que j'ai prise à la Génopôle Rhône-Alpes, puisque nous sommes sur son territoire. Donc, étude des protéines à grande échelle. Et donc, à partir de tout ça, et avec des outils informatiques adaptés, on peut un peu mieux commencer à comprendre la complexité des systèmes vivants. Bon, ici, ce sont des schémas qui font intervenir à la fois des données sur l'interaction de protéines, les unes avec les autres, et sur le niveau d'expression des gènes. Donc, tout ça, c'est le domaine de la génomique, qui est un domaine assez solidement investi par pas mal d'équipes et d'entreprises, qui progressent, qui donnent des résultats, qui a une importance économique tout à fait notable, parce que c'est presque certainement par cette voie-là que vont être découverts les médicaments qui seront importants dans les années à venir. Malgré ces progrès, les tendances à une interprétation très simplistes n'ont pas disparu, et je vais terminer sur quelques exemples. Donc, ces tendances, elles se manifestent au niveau des informations grand public. Ça, c'est ce qu'on peut trouver sur le réseau. Alors, j'ai rapproché deux dépêches, donc trouvées sur Health News de Yahoo, à un jour d'intervalle. Il s'agit en fait du même résultat, c'est amusant de voir que le lundi, il est rapporté donc, en disant « les scientifiques ont découvert le gène de l'autisme ». Ça, c'est un exemple typique de la déviation dans les résultats de la génétique, où on dit « le gène du crime, le gène de l'homosexualité, le gène de l'autisme ». Et vous avez ici, en fait, apparemment, alors je ne sais pas si c'est une dépêche différente, écrite à peu près simultanément, ou s'il s'agit d'une rectification de tir, par rapport à la première, puisque celle-ci est datée du lendemain. Il s'agit en tout cas de la même donnée scientifique. Cette fois-ci, la description est à peu près factuelle. Les scientifiques trouvent un gène qui est peut-être lié à l'autisme. Enfin, on voit souvent, beaucoup plus souvent, des titres de ce genre que de celui-là, y compris dans la presse spécialisée, dans la presse, dans les revues scientifiques de premier rang, puisqu'il s'agit ici de Science, qui est quand même une des trois meilleures revues scientifiques mondiales. Évidence, c'est presque preuve pour un gène de l'homosexualité, alors que ça se référait à des données préliminaires d'associations génétiques qui ont été démenties par un article paru quelques années plus tard. Et dernière perle, ça c'est paru dans Nature Genetics, qui est également un journal extrêmement sérieux. L'auteur est d'ailleurs celui qui avait publié l'article sur le gène de l'homosexualité, qui ne s'appelait pas, son article ne s'appelait pas le gène de l'homosexualité, il s'appelait une lésion génétique entre l'orientation sexuelle masculine et des marqueurs polymorphiques situés sur l'extrémité du bras long du chromosome X. Mais par contre, là il se lâche, puisqu'il vous parle de l'héritabilité du bonheur et des gènes du bonheur. Alors, il y a effectivement, donc, grâce au progrès de l'étude du génome, de la génétique, et malgré la réalité de cette étude que l'on s'échine à montrer, une tendance très forte à penser que l'ADN détermine tout, que les gènes détermine tout, et c'est bien sûr cette croyance que les gènes déterminent tout qui est en partie à l'origine de la fascination du clonage, puisque si les gènes déterminent tout, bien sûr, si l'on clone le petit ami de cette dame, on trouvera quatre petits amis identiques, et apparemment ça a l'air de la satisfaire parfaitement. Et donc ce fantasme qui est encore une fois très lié à l'idée que l'ADN est déterminant, puisque si l'on souhaite cloner quelqu'un, c'est parce qu'on imagine que l'on va retrouver une personne identique, y compris éventuellement dans son comportement et dans son histoire. Donc cette idée est exploitée par les marchands. Donc ici c'est le site d'une entreprise qui s'appelle Lazaron, l'allusion est claire, et qui est dans le business, est le clonage d'animaux, et en particulier le clonage d'animaux de compagnie. Donc vous voyez le slogan, sauver la vie génétique d'animaux précieux. Et en fait là, vous voyez, là il y a encore vie génétique, donc il y a un petit bémol, mais dans cette partie-là, vous avez sauvé la vie de votre animal. C'est-à-dire, votre animal va mourir, vous le clonez, vous avez le même animal, vous avez sauvé sa vie. Et avec effectivement un support expérimental qui est, comme vous le savez sans doute, le fait que le premier clonage de chat a été réussi au début de cette année. En fait, ces entreprises, pour le moment, leur business model, c'est de stocker l'ADN ou les cellules moyennant finance pour le jour où on pourra enfin cloner et ressusciter votre chat ou votre chien. Et bien sûr, on va parler de l'homme. En ce qui concerne l'homme, un des groupes qui prétendent cloner des êtres humains est la secte raélienne, fondée par un journaliste français qui s'appelle Claude Vorillon et qui a vu les extraterrestres débarquer dans les années 70 et qui a fondé une secte scientiste pour laquelle le clonage est un peu l'avenir de l'humanité et la façon d'assurer la vie éternelle, et donc qui a publié ce commentaire juste après les attentats de septembre 2001. En gros, qui disent qu'en perfectionnant un peu le clonage, après un attentat de ce type, on pourra ressusciter les victimes grâce au clonage, et on pourra aussi ressusciter les terroristes, ce qui permettra de les juger. Sans doute pour les exécuter après. Donc, après cet intermède, mes conclusions. Donc, j'ai bien aimé l'expression qui a été employée avant-hier soir, disant que les gènes sont des ressources. Je dirais que les gènes sont quand même la principale ressource, parce que malgré tout, si dans un embryon, il y a de l'ADN d'éléphant, ça ne fera jamais un homme, et vice-versa. Donc, ce sont des ressources disponibles pour le développement et le fonctionnement de l'organisme. Le déterminisme génétique, il existe, et il est plus ou moins fort, mais il est partiel, il est fortement modulé par l'environnement. Et les tendances simplificatrices, dont je vous ai donné pas mal d'exemples, sont fortes, et en fait, elles s'appuient sur des raisons individuelles, psychologiques, sur des raisons sociologiques, par exemple, le flux et le reflux, le tout psychanalyse, même si ce n'était pas tout à fait un tout psychanalyse, et actuellement plutôt le tout génétique, et politique, parce que ça peut être très commode dans une période de dépérissement des services sociaux, de penser que l'alcoolisme ou la criminalité sont essentiellement génétiques. Donc voilà, je termine ce panorama. Merci bien.
Merci beaucoup Bertrand. Nous avons une dizaine de minutes pour discuter, 10-12 minutes. Qui le premier, M. Delsol?
Merci. Alors, je vais d'abord vous poser une première question, puis ensuite la raison d'être de ma question. Sur ces 60 000 gènes, mettons 60 000, vous avez dit 30 000 ou 60 000, que faisons-nous des gènes neutres? Sont-ils compris dedans? Et d'une part, existent-ils? Car il y a des fois, en lisant Kimura, on se demande s'il y a une page, il dit qu'il y a des gènes neutres, à d'autres pages, il dit qu'il n'y en a pas. Mais ça, c'est une autre histoire dont je ne parlerai pas. Deuxièmement, est-ce que le concept de polygène s'intègre là-dedans? Car il y a, semble-t-il, beaucoup de structures qui sont polygéniques. Alors, si nous enlevons 50 structures qui ont peut-être 40 ou 50 gènes, si nous enlevons les gènes neutres, que reste-t-il pour fabriquer un embryon? Je sais bien que c'est une thèse que j'ai couramment répandue. En réalité, l'embryon, comme l'adulte, sont essentiellement composés de structures semblables. Toutes les cellules du foie sont semblables. Toutes celles du muscle sont semblables. Ce qui fait que finalement, nous n'avons peut-être pas besoin de beaucoup de gènes pour arriver à fabriquer un être, un individu, et même un être humain. Mais tout de même, j'avoue que ces chiffres, qui sont actuellement très répandus, qui commencent à sortir de différents côtés, me paraissent relativement peu nombreux. Je suis embryologiste, je me suis amusé à compter le nombre de muscles que l'on pouvait trouver chez l'homme en utilisant d'ailleurs le vieil ouvrage de Testu, la vieille anatomie de Testu. Je reconnais qu'il n'y en a pas tellement. Il y en a moins qu'on ne croyait. Mais enfin, tout de même, ça me paraît peu. Alors, il y aurait une réponse. C'est que chaque gène est un nombre de fonctions finalement très grandes. Que pouvez-vous m'expliquer là-dessus? Merci, monsieur.
Je pense qu'on n'a pas de réponse complète et définitive. On a quand même des réponses qui sont assez solides, qui sont justement, d'une part, fondées sur l'étude de l'expression des gènes, puisqu'on a les moyens de déposer 30 000 gènes sur une lame de microscope et de mesurer le niveau auquel s'exprime chacun de ces 30 000 gènes. Et on constate effectivement que l'on a, dans chaque tissu que l'on examine, disons, en général, 5 ou 10 000 gènes qui s'expriment à un niveau qui est détectable. Bon, ça ne veut pas dire forcément que leurs produits sont utilisés, parce qu'un gène peut être allumé quand on dit qu'un gène s'exprime dans ce cas-là, c'est qu'il y a production d'ARN messager. Ça n'entraîne pas nécessairement qu'il y ait fabrication de la protéine, mais en général, c'est le cas. Donc, on a quand même l'indication qu'une fraction relativement importante de cet ensemble de gènes, que le vrai nombre soit 40 000 ou 60 000, s'exprime dans différents tissus. Donc ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est qu'effectivement, on a de plus en plus d'indications que chaque gène est capable de diriger la synthèse de plusieurs protéines par épissage alternatif. On ne sait pas encore, souvent, si ces différentes formes sont vraiment biologiquement significatives. Mais je pense qu'en ce qui concerne les gènes, on n'est pas dans une situation où on aurait des raisons de penser que les 3/4 ou les 9/10 des gènes ne sont pas utilisés. Par contre, il y a tout le problème de l'ADN qui n'est pas compris dans les gènes proprement dit, les séquences intergéniques et les introns souvent très longs qui interrompent les gènes. Et pour cela, on se dispute encore sur leur rôle ou leur absence de rôle.
Nous avons une question de M. Gaillon, une question ici.
Où en est-on dans l'estimation du nombre de protéines présentes dans notre organisme, en mettant de côté les immunoglobulines?
Je ne pense pas là non plus que l'on ait un chiffre solide, mais disons que les estimations vont d'un minimum de 100 000 à quelque chose de l'ordre d'un million. Bon, ça dépend aussi un petit peu de ce qu'on considère comme une protéine différente. Donc, le premier niveau, c'est des protéines différentes produites à partir du même gène par épissage alternatif, donc où un exon, le produit de traduction d'un exon est absent d'une protéine et présent dans un autre. Donc ça, il me semble qu'actuellement, on tend vers l'idée que la plupart des gènes présentent ce phénomène et souvent avec plusieurs formes possibles. Donc ça multiplie le nombre de protéines par rapport à, disons, 50 000 gènes, ça le multiplie par 2 ou 3. Ensuite, il y a les modifications post-traductionnelles. Une fois la protéine fabriquée à partir de la séquence de l'ARN messager, la possibilité que cette protéine soit modifiée par enlèvement d'une séquence ou par modification chimique. Et il y a un peu la question de savoir quel type de modification amène à dire que c'est une protéine différente ou non. Enfin, disons, on en est à plusieurs centaines de milliers, vraisemblablement.
À vous.
Je dirais que malgré les réserves que j'ai sur toutes les bêtises qui sont dites sur la génétique, je me situe quand même plutôt du premier côté. Enfin, encore une fois, malgré tout, si c'est un ADN d'éléphant, ça ne fera pas un enfant humain. Et d'une certaine façon, l'essentiel est quand même contenu dans l'ADN. Simplement, il n'est pas contenu sous une forme simple et linéaire. Il est contenu sous forme de formules de gènes et de séquences de régulation qui font qu'à un moment donné dans l'embryon, en fonction de l'expression de certains gènes dans une certaine partie de l'embryon, ça va déclencher l'expression d'autres gènes dans l'autre partie de l'embryon. On n'échappe quand même pas au fait que, d'une certaine façon, l'information doit être présente dans l'ADN, même si elle n'est pas une information de type maître plan, plan coté, blueprint ou individu préformé.
Encore une question. Une autre personne auparavant. Et puis ensuite, je crois que pour préserver l'homogénéité des présentations qui ont un caractère médical tout à l'heure, nous allons nous interrompre pour un quart d'heure après la réponse à cette question.
Oui, je me demande s'il n'y a pas un danger à juste titre dénoncer le tout génétique. Mais j'ai peur que dans certaines parties de la population, ça enlève tout déterminisme génétique à des phénomènes comme l'homosexualité, des comportements. Et on ne peut pas a priori nier qu'il n'y ait pas une influence génétique, sachant qu'évidemment, le milieu joue son rôle. J'ai peur que, surtout en France en particulier, il y ait une bonne partie de la population qui ne pense que dire qu'il y ait une influence du génétique dans tel ou tel trait de caractère, c'est quelque chose de... c'est tabou, qu'on n'a pas le droit de le dire. Ce n'est pas politiquement correct.
Vous avez tout à fait raison. C'était l'expression de politiquement correct qui me venait à l'esprit en vous écoutant. Ça me fait penser à une amie psychologue qui refusait que l'on examine qu'on fasse les caryotypes des enfants dans son IMP pour voir s'ils avaient le syndrome de l'X fragile. Et effectivement, au rôle libérateur que peut jouer la mise en évidence d'une anomalie génétique comme raison d'un retard mental chez un enfant, alors que il n'y a pas si longtemps, on avait tendance à considérer que s'il y avait retard mental, c'était forcément dû à un trouble de la relation entre la mère et l'enfant. Donc, et effectivement, dans notre culture à nous, en France, en Europe, il y a coexistence à la fois d'une tendance autogénétique et en même temps d'un refus de ce type d'explication sur une position, disons, quasiment politique. Et effectivement, je pense que les motivations, comment dire, le type, je ne veux pas dire que le type de recherche qu'a fait Dinheimer quand il a essayé de trouver une influence génétique sur l'orientation sexuelle soit absurde a priori. On peut penser que c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant à faire dans un moment donné, mais ça n'est pas absurde d'imaginer que certaines versions de certains gènes puissent rendre plus vraisemblable une orientation de type homosexuel. Simplement, c'est très difficile à prouver et ce qu'il avait présenté n'était pas probant et surtout a été pris comme 100 ou 1000 fois plus que ce que c'était réellement.
Bien, nous allons nous arrêter pour ce matin, pour cette première partie, et nous reprenons exactement à 11h moins le quart.